Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken. Je suis actuellement en rodage de mon tout nouveau spectacle, c'est complet à Paris au Cartel, mais vous pouvez me retrouver prochainement en tournée à Montpellier, Lille, Bruxelles, La Roche-sur-Yon, Ergué-Gabéric, Aix-les-Bains, Istres, Décines et Saint-Étienne. Tous les liens pour réserver sont sur mon site internet. À bientôt.
Les mecs que je veux ken.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans ce 56e épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken, l'édition d'été avec des femmes. Aujourd'hui, je reçois l'humoriste et chroniqueuse Constance, un peu dans la lignée de l'édition France Inter, où j'avais reçu Fanny Ruet, Morgane Cadignan, Alexis Le Rossignol, Jérémy Crédville, Tom Villa, de la bande originale. Et là, c'est la bande de par Jupiter, de laquelle j'ai aussi reçu Alex Vizorek, Thomas VDB ou Aymeric Lompré. C'est maintenant le tour de l'étonnante Constance, qui jouera son spectacle Pot-pourri un peu partout en France, en tournée, à partir du 24 août et au Casino de Paris, le 14 décembre. Vous pouvez réserver dès maintenant. Quant à moi, je continue mon spectacle cet été. Plus que 4 dates au point virgule, mercredi pro, le 28 juillet, puis les 4, 11 et 18 août. Ensuite, je m'envole à La Réunion pour le tournage d'un court-métrage de Marina Ziolkowski avec Barbara Butch, dans lequel je joue une fée. Les deux épisodes précédents, avec Nadia et Charlie, étaient très centrés sur la question du féminisme. Là, avec Constance, on est plus dans la ligne de l'épisode avec Christine Bérou, c'est-à-dire sur le thème de la liberté d'expression, principalement comment contourner le politiquement correct, tout en ayant un humour bienveillant, inclusif et progressiste qui se remet en question. Bon, je sais pas ce qui s'est passé à l'enregistrement chez moi le 18 mai. Soit j'ai oublié, comme une conne, d'allumer le micro de Constance, soit elle était trop loin de son micro, j'avais pas encore d'écouteurs pour les inviter à ce moment-là. Bref, le fait est qu'on l'entend difficilement. J'ai dû mettre le son au max quand elle parle. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Parfois, en fait, en rehaussant le son, quand on se répondait rapidement, j'ai augmenté aussi le mien, qui sature donc, vu que moi j'étais normale. Voilà, je suis désolée pour vos oreilles. Parenthèse, les miennes vont mieux, je ne tangue presque plus qu'un léger tremblement. J'aurais peut-être dû proposer à Constance un nouveau rendez-vous, mais j'ai pas osé, elle habite pas à Paris, elle était venue jusque chez moi à Bagnolet, et ça passe quand même. Voilà, vous me direz. On commence tout de suite avec le poème. Constance. Constance est impressionnante, l'impression, non seulement qu'elle peut rire de tout, mais qu'elle peut tout rendre drôle. Elle apporte une dimension théâtrale à la chronique radio et télé et écrit merveilleusement bien. Son langage est fleuri, chatoyant, soutenu, avec des jeux de mots, des pirouettes. À une époque où l'humour se veut le plus parlé et accessible, Constance garde une exigence, un amour de la langue française, et elle n'a peur de rien. Sa chronique « Parlons balcon, parlons nichon » sur France Inter est culte. 3 millions de vues et des commentaires dithyrambiques, sur la beauté des seins de Constance bien sûr, mais surtout son courage, comme il est rafraîchissant d'envoyer dans les roses la pudibonderie « merde ». C'est la première fois que l'on se voit dans la vie et je suis honorée et ravie de te rencontrer, Constance.
Ça, c'est chouette.
Ah, mais c'est vrai que cette chronique est géniale, mais peut-être qu'on te l'a tellement dit que maintenant t'en as marre qu'elle soit à ce point mise en...
Non, ouais. Pas du tout. Alors moi, j'en ai jamais marre qu'on dise des choses gentilles. Parce qu'en fait, il y a toujours des réflexions à la con, des trucs méchants. Donc comme ça fait un petit peu...
Ah ouais,
ça fait un équilibre.
Parce que quand je défilais les commentaires sous la vidéo France Inter, et en général quand je regarde tes chroniques, je trouve que t'as des vrais fans et que t'as pas beaucoup de haters. La plupart sont... Et même quand tout d'un coup tu vas sur une autre émission, c'est-à-dire que tes fans te retrouvent et sont là « Ah, Constance, j'ai vu ça dans On est en direct », c'est-à-dire que des fans te suivent, quoi. C'est impressionnant.
Ah bah tant mieux. Alors après moi je regarde pas.
Tu regardes pas?
Non, parce que comme je suis assez sensible, facilement ça peut me faire de la peine. Et puis en plus j'ai pas envie que ça me fasse dévier artistiquement parce que j'ai lu tel ou tel truc, j'ai envie de garder ma... C'est pas ma pureté, mais mon intégrité de... Je veux pas me faire influencer trop par l'extérieur, je veux que ce soit... J'ai ça de toujours de petit ordinateur de bord intérieur, quoi. Je sais qu'il y a des gens qui me suivent et qui sont hyper fidèles, et ça, je trouve ça beau. Il y a même des gens qui me suivent depuis mon premier spectacle il y a 15 ans maintenant. Et à la sortie du spectacle, ils donnaient une petite plume pour porter bonheur. Ils ont toujours cette petite plume, très souvent, ils m'en parlent encore.
Waouh!
Oui, c'est très joli, c'est très solide et ça me plaît. Et moi, j'ai vraiment envie de ne pas les décevoir, que ce soit toujours à la hauteur de ce qu'ils attendent, ces gens, parce que, en fait, un spectateur, il te donne une confiance Et si jamais tu le trahis, parce que c'est pas qu'un rapport d'argent, mais quelqu'un qui te donne du temps et de l'argent pour venir t'écouter parce qu'il te fait confiance. Après, si tu deviens une espèce de produit ou une caricature de toi-même, et ben tu trahis ces gens.
Ouais.
Et c'est pas bien de faire ça.
Donc,
moi, je continue d'avancer, je fais mon truc. Et oui, il y a des gens qui me suivent et qui me font confiance, et ça, c'est merveilleux. Et puis après, il y a des gens qui ne comprendront jamais ce que je raconte et qui je suis. Et c'est pas grave, parce que ça aussi, c'est intéressant.
Ouais.
Tout est intéressant. Moi, j'aime voir des spectacles de gens que j'aime beaucoup, et j'aime voir des spectacles de gens que j'aime pas du tout. J'aime aller voir des spectacles d'humour qui font pas rire. J'aime voir plein de choses, parce qu'en fait, j'aime comprendre pourquoi ça me fait rire ou pas, et j'aime respecter tout ce qui tombe du truc que je ne comprends pas, puisque c'est toujours intéressant de décortiquer de pourquoi on rentre dans quelque chose ou pas. Et l'art n'est pas fait que pour faire plaisir aux gens, ou sinon c'est de la complaisance en fait. C'est aussi fait pour déranger, et c'est aussi fait pour déplaire, et s'interroger, et énerver. Et du coup, tous ces trucs-là, il faut les laisser dans le cocktail. Sinon, c'est juste de la complaisance en fait.
Non, mais c'est très vrai ce que tu dis. On le sent dans tes chroniques, il y a une absence de compromission, que en fait, t'es pas là. T'es pas là pour séduire, t'es là pour défendre un propos, c'est hyper pur. Mais quand tu dis que tu vas avoir des spectacles qui te font rire et d'autres qui te font pas rire, c'est quoi ? Est-ce que t'as, donc résultat, est-ce que tu sais qu'est-ce que ou qui par exemple te fait rire, pour ne pas parler de, ou qu'est-ce que tu sais à l'inverse, sans citer personne, mais quel ressort où tu vas rester froide, ou est-ce qu'il y a des trucs particulièrement où tu sais déjà d'avance que ça peut pas te toucher ?
Alors, c'est compliqué de définir ça, parce que des fois, il y a des gens qui me font profondément rire, et j'y vais, et je vais être un peu déçue, mais peut-être que je vais réussir à leur pardonner. J'essaie toujours de comprendre, en fait. Bon, que ça me plaise ou ça me plaît pas, j'essaie de comprendre, j'essaie d'analyser, j'essaie de décortiquer. Et après, il y a toujours une espèce d'analyse sociologique, peut-être ethnologique même, autour de la vie. De toute façon, exister, c'est se lever matin et être curieuse, de même sans parler d'artistique en fait, de la vie. De, ah oui, donc alors cette personne, physiquement elle est comme ça, qu'est-ce qui lui a pu lui arriver, elle a cette voix-là, le métro c'est passionnant parce qu'il y a plein de gens, mm-hmm. Dans le supermarché parce que je passerai des heures à écouter les gens, mm-hmm. Parce que j'adore la voix, j'adore la manière de se tenir, où est-ce que t'as mis ta boule d'énergie, pour quelles raisons, pourquoi t'as peur de ci, pourquoi t'as peur de ça, pourquoi t'aimes plus ci, pourquoi... En fait tout s'explique, pourquoi tu deviens tueur en série, pourquoi tu deviens Mère Teresa, c'est aussi fascinant. Et en fait l'artistique, la scène, c'est une lucarne de tout ça. Donc après, en fonction de ce que t'es dans la vie, de ce que t'as vécu, de ton histoire, ton parcours, tu vas avoir tel ou tel truc, ce qui fait qu'aller voir sur scène des artistes qui me plaisent ou qui me plaisent pas, ça me plaît autant pour ce qu'il y a sur scène que ce qu'il y a dans la salle. Du coup, il y a toujours une analyse qui est hyper intéressante. Parce que pourquoi est-ce que moi, des fois, j'aime pas un truc et limite ça me met en colère, j'ai
okay.
aller chercher pourquoi.
Ouais.
Je fais un rejet total de ça.
Okay.
Et puis, on va pas se mentir, des fois, on rejette un truc par snobisme.
Ouais.
Alors qu'on va surprendre un rire à des trucs qui sont hyper potaches.
Ouais.
Et d'autres fois, on va aller voir des trucs hyper intello qui sont tout simplement très chiants.
Ouais.
Voilà. Et il faut rester ouvert à tous ces trucs-là. Et je pense qu'il faut rien fermer. Évidemment, je préfère aller voir des trucs sur scène qui me plaisent, mais j'aime toujours comprendre pourquoi ceci, pourquoi cela, quoi.
Est-ce que t'as... En France, quels sont vraiment les artistes qui t'ont influencé, que tes coups de cœur, tu t'es dit, ok, en fait, ça, c'est proche de ce que je rêverais de faire.
Alors, j'ai du mal à... Dans les humoristes, il y a beaucoup de choses un peu partout en fait. J'arrive pas à être fan complètement de,
okay.
de quelqu'un. Je trouve qu'il y a à apprendre chez plein de gens. Moi, c'est plus des univers en fait. J'aime vachement Jaoui Bakri au niveau de l'observation, puis de la sensibilité, de l'intelligence. J'aime Colline Serrault, pareil, pour l'écriture, pour l'engagement, pour cette intégrité. Je vais aimer François Damiens, je vais aimer Philippe Catherine, Brigitte Fontaine, Mano Solo, Jacques Brel. En fait, j'aime les gens qui ont un univers complet, qui sont assez sans concession, parce que,
ouais.
Parce que c'est un témoignage d'une observation à un moment donné qui, je trouve, est aussi importante qu'un roman de Zola au moment où il a été écrit, parce que c'est pas du jugement, c'est de l'observation. Et du coup, c'est laisser une trace d'une période pour les gens qui vont arriver derrière et des fois pour les gens qui sont dedans pour essayer de la comprendre.
Ouais, c'est marrant parce que dans les artistes que tu as cités, donc il y a une vraie dimension poétique et anarchiste, en fait, c'est ça. C'est vraiment des artistes absolus.
T'aimes. Parce qu'en artistique, on peut parler et on ne peut passer que par une forme de révolution. Mmh. Je ne comprends pas le fait de monter sur scène si on n'est pas un petit peu en colère.
Ouais.
Si le monde te correspond et que tout va bien, je ne vois pas pourquoi tu te mets en danger à créer ou à monter sur scène. Dans ces cas-là, tu te dis, alors ce monde est très bien, il me convient parfaitement, je vais faire des enfants pour que ce monde continue comme ça et qu'on aille dans ce sens parce que tout est parfait.
Ouais.
Il y a certainement des gens comme ça et ils sont aussi intéressants.
Ouais. Et t'as toujours eu ce sens, cette révolte, c'est quelque chose que t'as depuis toujours ou il y a eu un déclic, un moment où tu t'es dit, ah non, mais en fait, c'est pas possible, je vais pas pouvoir tolérer. T'étais comme ça, genre le collège, tu te révoltais contre les profs, l'autorité, tu supportais pas.
En fait, j'ai toujours été plus maligne que ça. C'est-à-dire que j'écoute et après, j'essaye toujours de poser le pourquoi du comment. Du coup, ça nous met face, je dis pas les gens parce que moi aussi, ça me met face à des contradictions. Et ces contradictions, je pense qu'il y en aura toujours. Je pense que l'existence humaine est des que contradictions, mais elles sont intéressantes à soulever parce que des fois, il y en a que tu peux faire évoluer. Puis des fois, juste de rire des choses qui sont terribles, ça permet de moins en souffrir, tout simplement.
C'est sûr que c'est pile le bon cocktail pour faire de l'humour. D'avoir une espèce de bon dosage de révolte, de colère, mais en même temps, via la contradiction d'autodérision, puisque tout ce qu'on idéalise, on se dit « Ouais, mais est-ce que je suis capable ? Qu'est-ce que moi je fais mal ?» Et ça permet de ne pas tomber dans le moraliser, quoi. Parce que c'est
ouais,
ça.
Ouais, ouais. C'est difficile aussi de ne pas devenir des magots quand tu te retrouves sur des radios ou des médias ou des télés ou à cette époque où en fait il y a plein de choses que tu peux dire et ne pas dire. Moi vraiment mon défi ça va être comment est-ce que je vais pouvoir dire le truc assez intelligemment, de manière assez détournée pour qu'on ne fasse pas trop chier mais qu'en même temps ça serve à quelque chose.
Ouais. Ouais, c'est étonnant parce que finalement, tes chroniques sont pas si politisées que ça. Il y a un angle...
Apolitique.
Ok.
Totalement. Bah, si j'ai un ordre politique, c'est plus l'anarchie.
Ouais.
Même si je pense que l'anarchie, c'est pas viable. C'est parce que je pense qu'il faut toujours un petit peu d'anarchie dans la démocratie pour que la démocratie soit saine. Mais je suis pas ni de gauche, ni de droite, ni du milieu, ni de rien du tout, en fait. Je trouve que... C'est dommage de vouloir s'enfermer dans une case politique quand on est censé juste avoir du recul et essayer toujours de faire sortir les contradictions de quelque chose. Quoi. Parce que on est d'accord que dans l'idéal, le communisme, c'est parfait, mais ça ne marche pas avec l'humain. On est d'accord que y a plein de théories politiques où en fait juste tu lis sur le papier et tu dis waouh ça serait tellement bien mais après tu rapportes ça à l'humain, c'est pas viable parce que l'humain de toute façon aura toujours besoin d'argent, de pouvoir, de reconnaissance, de toutes ces choses qui font que ça part en couille et tout ça doit être un équilibre et si tu tombes dans un excès ou dans un autre et ben ça bascule, ça marche plus. Et puis, il y a aussi un truc très con, c'est que s'il n'y a pas les méchants, les gentils n'existent pas. et du coup, il faut jouer avec ces deux trucs-là parce que... Moi, tu vois, par exemple, je ne suis pas croyante.
Ok.
Mais je trouve ça beau qu'il y ait des gens qui croient, en fait. Et je trouve ça vraiment intéressant de discuter avec des gens qui sont croyants. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse accepter tellement de manières de voir les choses et qu'on puisse se marrer tout vraiment franchement.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Non, quoi. vraiment ce qui fait que des fois ça part en sucette, c'est le fait de ne pas supporter que l'autre pense différemment, que l'autre veuille t'imposer quelque chose. C'est hyper démago ce que je dis.
Non, mais c'est tout à fait vrai. Et c'est vrai qu'en fait, on a l'impression, on associe souvent l'intolérance à quelque chose des gens de droite, du FN. Mais en fait, il y a une grande intolérance aussi chez certaines personnes à gauche, en fait. Oui. Ou si tu ne partages pas leur vision de l'athéisme.
Parce que ce que je veux dire, c'est que par exemple, il y a des gens qui vont être très croyants, qui vont être des gens formidables, très ouverts. Et il y a des gens qui vont être très croyants, qui vont être des grosses merdes. Et pareil chez les athées ou les gens de gauche. C'est pas parce que t'as telle ou telle étiquette que tu rentres dans une case. En fait, tout est beaucoup plus complexe que ce qu'on essaie de nous faire croire. Voilà. Moi, cette espèce de pensée manichéenne, de choses, c'est noir ou c'est blanc, j'arrive pas à rentrer dedans. Parce que simplifier l'humain, c'est le nier.
Ouais. Et quand tu parlais dans ton spectacle de Petite Plume, hélas, j'ai pas encore pu venir te voir sur scène. C'est la première fois qu'on se rencontre. Et c'est vrai que ça fait quoi, plus d'un an maintenant qu'on peut pas aller au théâtre, qu'on peut pas voir... C'est hyper frustrant, quoi, parce que aussi, moi, le plaisir du podcast, c'est d'inviter des artistes dont après on peut discuter de leurs œuvres. Mais là, déjà, tu vas reprendre bientôt, tu sais.
Concrètement, vraiment en septembre.
Ok. Ouais. Et donc, la petite plume, c'était... tu peux nous spoiler, ça signifiait quoi à la fin de ton spectacle?
C'était le spectacle Je suis une princesse bordel que je jouais il y a 15 ans.
Ok. Donc,
voilà, c'est pas spoilé puisqu'il il fait dodo maintenant.
D'accord.
Mais... à la sortie, je tenais une plume, je disais que c'est une plume de panda, c'est une plume rose, à chaque personne qui était venue voir le spectacle, parce que c'est un porte-bonheur après.
Trop beau, hein.
Il y a plein de gens qui le gardent dans leur portefeuille, et moi aussi j'ai toujours une petite plume rose sur moi. Alors je suis pas croyante, mais j'ai plein de petits porte-bonheurs.
Oh, c'est génial! J'adore! Ouais, je trouve ça super, c'est super une idée des petits souvenirs, des petits objets. Enfin, en fait, c'est un truc de l'enfance qu'on oublie quand on devient adulte. Qu'on est enfant, on a plein de collections, on collectionne.
Oui, puis des fois, tu es enfant, tu te dis, ah, j'ai un caillou dans ma poche, je suis pas
mal. Ouais. Je sais pas si vous avez bien entendu, parce que même en augmentant le son de Constance, en fait, on a des petits passages flous parfois. Mais elle dit, parfois, quand on est enfant, on a un petit caillou dans sa poche et on pense que rien ne peut nous arriver. Voilà, elle distribuait une plume en porte-bonheur au spectateur à la fin de son spectacle. Trop chou. Reprenons. Et donc, en fait, toi, tu sors du conservatoire et tu crées ce spectacle, il y a 15 ans.
Ouais, c'est ça. Ça va faire 16 ans même. Moi je voulais être comédienne, donc j'ai fait le conservatoire de Lille. Et puis j'arrive à Paris et on me dit que le monde ne m'attend pas. Donc j'ai dit comment ça ? Le monde artistique, ça n'a pas besoin de Constance. Non, mais il y a ce truc-là, c'est quand tu sors des
découvertes. Ah bah grave, ah bah ouais.
Tu te dis bon, allez, maintenant j'arrive.
Ouais, attention. Ouais, ouais.
Et puis non, personne ne t'attend. Et ouais. Je connaissais personne, physiquement j'étais pas assez jolie pour que vraiment on se dise waouh. En fait, je crois que c'est un cadeau de pas être trop beau. Parce que du coup, tu dois un petit peu te sortir les doigts du cul pour exister.
C'est, c'est clair, c'est clair.
Donc voilà, je me suis dit qu'il fallait que je trouve une manière d'exister et j'ai découvert le café théâtre. Ah, j'ai eu une conversation. Assez cadeau avec Catherine Jacob.
Ok.
Ouais, parce qu'en fait, son père avait appris à monter à cheval avec mon grand-père, et du coup, comme elle était déjà assez connue, etc., puis qu'elle était assez chouette pour prendre un café pendant une heure avec moi quand je venais d'arriver à Paris.
Trop sympa.
Voilà, et puis comme elle est cash, c'était très drôle.
Ouais.
On m'a dit tout de suite. Qu'avec ma petite gueule de provinciale, personne ne m'attendait, mais que de toute façon c'était un métier où personne n'avait d'imagination, puis que si je ne montrais pas ce que j'étais capable de faire, personne n'en aurait rien à foutre de moi.
Waouh!
Et j'ai aimé.
Et ça t'a fait un déclic
C'était un déclic que j'avais déjà eu un petit peu, parce que dans ma famille aussi, j'ai des gens autour avec qui j'aime discuter, qui sont toujours de bons conseils. Et je me souviens de mon oncle qui m'avait dit. Plusieurs fois, j'ai essayé de monter des projets avec des gens et puis j'attendais toujours et puis ça se montait pas. Il m'avait dit, mais faut pas attendre des autres, il faut avancer. Puis les gens qui montent dans le wagon, ils montent dans le wagon, mais n'attendent pas d'avancer avec un groupe parce que ça marchera pas.
Mmh.
Et ça, c'était un cadeau aussi de me dire ça très jeune, puisque j'étais déjà bien rendu compte que c'était compliqué de monter un espèce de truc de groupe. Mais par contre, d'être un moteur et qu'il y ait des gens qui puissent se greffer dessus, c'était plus facile. C'était plus cohérent, en fait.
Ça m'amène... Parce que c'était une question que je voulais te poser. C'était... je digresse. Mais est-ce que justement la solitude du one woman show, c'est un truc final? Alors c'est génial parce que justement tu ne dépends pas du collectif, tu dépends pas des gens qui arrivent en retard à la répète, parce que c'est pas payé, on se dit qu'on va répéter de 11h à 23h et en fait ça n'en finit pas et c'est hyper usant. Mais en même temps, moi qui fais du stand-up, là, bah, ça va faire 4 ans avec ces trucs de confinement d'année. Mais en tout, à la fois, il y a ce putain de libération, de soulagement que tu décris de « j'y vais ». Et en fait, j'espère qu'il ne boit pas ton eau ou qu'il ne lèche pas ton verre.
Il n'y a aucun souci.
Ok.
Il peut frotter le pion.
Ok, il est propre, il fait sa toilette tout le temps. Et donc à la fois, c'est un soulagement parce que, bon, tu te dis, il n'y a personne qui me retient, je peux bosser, je peux faire mes trucs, je ne suis pas retenue en arrière, ni par la fainéantise, ni par les égos de certains et l'énergie que peut créer les groupes. Et en même temps, parfois, ça manque un peu les amis, les camarades. Mais toi, tu as retrouvé aussi un peu ces espèces de troupes de France Inter qui est un peu quand même une troupe.
Oui, moi je pense que c'est assez idéal parce que on se regroupe autour d'une énergie collective, de gens qui sont surtout sur des trucs individuels autour, donc qui sont forcément bosseurs et qui savent ce que c'est que de devoir se démerder tout seul, qui sont contents qu'il y ait cet esprit collégial autour de cette émission. Et en fait, c'est pas une espèce de concours de tub,
non.
C'est des gens qui se respectent et qui s'additionnent et qui laissent de la place parce qu'ils ont conscience du territoire. Et qui sont suffisamment intelligents pour ne pas être inquiets s'il y a quelqu'un qui va faire marrer sur un truc en se disant bah, ça ne me bouffe pas du territoire à moi, ça ajoute à cet univers que je suis en train de construire et ça ne nie personne.
Ouais, c'est vrai que c'est incroyable, ça fait rêver quand on regarde par Jupiter parce qu'on a vraiment l'impression que vous vous portez les uns les autres, que c'est hyper bienveillant, oui. Le regard de Charline, celui d'Alex, de Juliette Arnaud, enfin vraiment, vous êtes de bon cœur, vous riez, et même, c'est jamais des rires forcés, et quand il n'y a pas des rires, il y a toujours une curiosité, une espèce d'attente de la chronique de l'autre, un sourire, c'est dingue quoi, c'est ce qui fait le succès en même temps, mais...
Oui, Charlie me dit souvent on pourrait pas avoir dans l'équipe quelqu'un avec qui on serait pas capable de partir en vacances. Et moi, pour souffrir souvent des rapports avec les autres qui sont très compliqués et étant assez sensible, quand je suis déçue par quelqu'un, j'ai du mal. Après, voilà, Et là, il y a cette espèce de respect tout autour du travail et de la légèreté qui fait que ça crée quelque chose d'absolument chouette qui n'abîme jamais.
Mmh.
Ça, c'est incroyablement précieux.
Et en même temps, quand tu me dis que t'es hypersensible, et je me dis, mais moi, quand je te vois dans On est en direct, j'avais l'impression que c'était impossible de s'en sortir dans cette émission, que je trouvais le format tellement compliqué. Au départ, moi, j'en ai fait deux. Et au départ, je me disais, oh, c'est génial. Et puis, le fait d'être à quatre et d'avoir une punch sur un fait d'actualité, je me disais, mais... Et après, je me suis un petit peu, pas consolée, mais je me suis dit, non, mais en fait, c'est impossible d'être fort dans cette émission. C'est pas moi qui étais nulle, c'est juste, c'était impossible. Et ensuite, je te vois débarquer, je fais, ah, bah non, c'est possible. Constance y est arrivée. Et résultat, je me dis, t'as quand même une force parce que il fallait le faire, ce pari d'arriver à 1h du mat sur un coin de piano avec des invités parfois un peu endormis et pas dans une configuration spectacle ni intime de celle de Par Jupiter où vous vous connaissez en effet comme de bons copains et de balancer ton énergie. C'est que tu, ouais, là, est-ce que tu vas j'imagine que est-ce que ta préparation mentale elle est un peu différente? Comment t'abordes ça tout d'un coup, ce genre de défi?
Un défi, c'est le mot, ouais. Je crois qu'on peut pas avoir les pires conditions, en fait. Il est très tard, les gens sont épuisés.
Ouais.
Clairement, très peu de gens sont dans mon délire d'humour. Je sais pas expliquer, en fait. Il y a un truc de défi, ouais.
Mais t'y arrives, hein.
Je vais aller au bout de ce truc et je vais essayer de faire rire ces gens qui ne riront peut-être jamais à mon humour. Et dans cette ambiance où je pense que l'étape d'après, c'est... quelqu'un de... Je sais pas, il y a une petite ambiance où on a l'impression que quelqu'un a baisé la femme de quelqu'un. Il va faire des blagues quand même. Et du coup, ça devient presque intéressant. Alors, peut-être que c'est une démarche même un petit peu...
Naso. C'est... Bah après, t'es soutenue par le regard de Ruquier qui t'aime. Donc ça porte. Lui, il est fan.
Oui, ouais. Je sais pas s'il est fan, mais en tout cas, il fait le job d'essayer de me donner l'échange et d'être le regard et le rire en face. C'est clairement une expérience, cette émission. Je cacherai pas que je suis plus à l'aise dans Par Jupiter parce que c'est plus... tout est beaucoup plus simple, bienveillant. Je suis avec ma fiche, ça rigole autour, il n'est pas à 2h du mat, voilà. Mais
c'est formateur.
C'est pas bien aussi de se remettre
en danger.
Parce que sortir de sa zone de confort quand t'es un artiste, c'est hyper important. Mm. Et puis y a un truc d'humilité aussi.
Ouais. Ouais, absolument.
Là, il va falloir se sortir les doigts du cul pour aller chercher.
C'est clair.
Ils viennent pas toujours.
Mais en fait, tes chroniques, elles sont toutes réussies parce que t'arrives à combiner deux choses qui sont hyper rares. C'est la force du texte et la force du jeu. Et c'est très rare de voir des chroniqueurs humoristes faire ça, parce qu'en général, c'est des humoristes un peu plus acteurs. Et donc, ils se reposent un peu sur une façon de jouer, et c'est très casse-gueule. Et, ou alors des chroniqueurs qui ont juste les mots, mais pareil, c'est casse-gueule aussi dans ce genre de format, parce qu'à un moment, on perd un peu le sens du mot. Et toi, comme tu maries les deux, où t'arrives tout de suite avec une énergie vraiment hyper forte, et en même temps, bah, si jamais le jeu passe pas, en fait, le texte, il a du sens, enfin, il est ultra écrit. Et donc, on ne peut pas ne pas écouter, en fait, c'est ça.
Ça dépend des gens, c'est très gentil, merci.
Ah non, mais sincèrement.
Il y a des gens qui vont pas du tout rentrer dedans ou pas du tout écouter, qui vont vraiment. Encore une fois, je sais que j'ai un humour qui est très particulier, donc je pense que soit on adhère complètement, soit on adhère pas du tout. Je pense que j'ai quelque chose de l'ordre du bulldozer.
Ouais.
Parce que je me suis faite toute seule, dans le sens où j'ai fait les salles des fêtes, j'ai fait les bars à saucisses, je suis allée jouer sur les baraques à frites, je suis allée jouer là où tout le monde était bourré, j'ai animé des anniversaires, je suis allée vraiment à des endroits où j'étais pas du tout respectée et je suis allée au bout à chaque fois par principe. Personne m'écoute, tout le monde est bourré, ça va être très compliqué, j'irai au bout de ce truc. J'ai laissé des morceaux de moi dans ces petits endroits, mais... j'ai l'impression que quoi qu'il se passe, maintenant, par principe, j'irai toujours au bout du truc. Donc il y a ce truc un peu de bulldozer, oui, qui est vrai. Et je suis ce mélange de grande sensibilité et aussi de quoi qu'il se passe, j'en ai rien à branler, j'irai au bout.
Mmh.
Voilà. Et c'est un métier dans lequel il faut avoir une capacité de... résilience comme ça, puisque c'est très bizarre ce que je veux dire, mais j'ai l'impression que quoi ce qui se passe, quoi qu'on me mette dans la gueule, mais dans la vie aussi, je vais encaisser le coup et je repartirai derrière. En fait, vraiment, vraiment, j'ai l'impression de continuer à me relever, à exister, rien que pour faire chier. C'est ma manière à moi de résister et de militer d'une certaine manière, sans conviction politique, c'est de dire je suis parfois en opposition ou à contre-courant, mais j'existe et je continuerai à exister, même si ça vous ennuie, parce que c'est important qu'il y ait des choses qui soient d'une autre couleur.
Ouais, en fait c'est un peu un petit miracle que des artistes comme toi ou Blanche Gardin, on vous ait, parce que je pense que normalement, à ce degré d'intégrité, de sensibilité, la société est tellement dure qu'elle est faite pour que des personnalités comme ça craquent et qu'on ne les voit pas. Et, et qu'on est juste, qu'on nous serve quelque chose de moins bien, mais de quelque chose de plus lissé et qui a survécu en fait, à la violence du milieu. Et quand tu dis d'un coup, il y a des espèces de, hop, de petits artistes qui s'échappent et qui reviennent et qui remontent et qui relèvent et qui sont quand même là, tu dis « Oh, waouh !» Enfin, vite, mais c'est pas. Mais c'est hyper rare. C'est hyper rare parce que tu dis que tu as craqué, tu te relevais, tu as fait un burn-out à un moment dans ta carrière.
Ah oui, moi j'ai fait un burn-out, j'ai des phases où j'ai envie de tout arrêter. Ce métier, pardon, m'a fait profondément souffrir. Mais la vie fait profondément souffrir. Et sans l'artistique, sans la réflexion. Qui tourne autour de l'onirique, du poétique et du fait d'essayer de réfléchir aux choses d'une manière un petit peu différente.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Il y a quelque chose de l'ordre de la survie, en fait.
Ouais.
Et je pense que j'ai un parcours artistique qui est beaucoup à l'image de mon parcours de vie.
Ouais.
Et cette capacité de résilience, je crois qu'elle ne peut exister dans l'artistique que si elle a été dans la vie. Et c'est important qu'il y ait toujours de la place dans cette société qui devient de plus en plus uniforme et politiquement correcte.
Ouais.
Qu'il y ait des bizarres et des décalés et des à contre-courant. Parce que si on ne peut plus trouver notre place dans l'artistique, on va se mettre où ?
M'en parle pas. T'as dit le mot. C'est vrai que le politiquement correct, c'est un peu... c'est terrible, quoi. Parce qu'hier, j'ai fait un Instagram live avec des humoristes pour fêter le 50e anniversaire du... Enfin, le 50e épisode de mon podcast. Je suis hyper fière. Ça, c'est un truc, tu vois, peut-être hérité un peu de la religion ou du judaïsme. Je suis pas religieuse, mais dans la tradition juive, il faut célébrer les passages quand même, les moments, c'est hyper important. Donc 50, tu vois, je voulais faire un truc, donc j'ai fait 4 heures de live, j'en pouvais plus. Et j'essayais de roder des nouvelles blagues que je veux tester sur les plateaux. Puis à un moment, je sais plus, avec un des humoristes... Il y a eu un petit malaise, mais parce que je disais, c'est marrant, vous les mecs, vous n'êtes pas très inventifs avec vos barbes, alors que nous, avec nos cheveux, on fait plein de trucs, mais on vous voit jamais, genre, avec des pochoirs et des dauphins ou des trucs. Et puis, il disait, mais si, pourtant, on va chez le barbier, il y a la barbe Montesquieu. Et j'ai dit, oui, il y a aussi la barbe Ben Laden. Et c'est pas du tout passé. Et il y a eu un gros malaise, et il m'a dit, c'est pas drôle et c'est raciste.
Oh là là.
Et j'étais... Et je l'aime beaucoup en plus, donc résultat, j'étais super peinée de le... J'essayais de rire, de désamorcer. Et puis après, dans la nuit, je me suis réveillée parce que je culpabilisais. Je me disais, ok Rosa, faut que t'arrêtes d'associer. Mais en fait, je me suis dit, attends, qu'est-ce que... J'essayais de réfléchir pourquoi ce serait raciste. Alors, est-ce que... Et je me dis, mais j'ai pas fait une analogie musulman-terroriste, je dis rien. J'ai dit, c'est vrai que les terroristes, aujourd'hui, on les associe à leur barbe.
C'est lui qui l'a fait, cette analogie.
Voilà, voilà.
Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est une phrase de dans un conflit ou dans un moment de gêne, ce que l'autre te reproche, c'est un problème qu'il n'a pas réglé lui. Et très souvent, quand on te dit, de toute façon, t'es radine, c'est la personne qui est épingle. Quand on te dit, oh, de toute façon, t'es complètement égocentrique. Voilà, et en fait, c'est... Toujours, toujours prendre du recul, même si je sais qu'on prend les choses de manière très frontale par moment. Et ce que je comprends, quand on te dit ça, c'est pas agréable, etc. Mais en fait, le mec qui projette sur toi, peut-être que c'est s'il y a quelque chose qui tourne autour de cette question que lui a pas réglé. Et c'est ce que j'essaie de dire aussi de temps en temps dans les chroniques. En fait, les gens ils t'envoient tellement d'horreur qu'à un moment donné, tu dis, en fait, moi, je vais déjà essayer de mener ma vie avec mes propres névroses. Vous allez ramasser les vôtres
là,
et vous allez les prendre et les régler de votre côté.
Ouais.
Parce qu'on va pas pouvoir régler les problèmes de tout le monde à la place des gens.
Ouais.
Donc, c'est intéressant, ta réaction, parce que t'as soulevé quelque chose. Et je reviens à ce que je disais au début. Je pense que même si des fois on dit oh, j'aurais pas dû dire ça, ça, j'ai soulevé ce liège, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, c'est le rôle aussi
de l'humoriste.
Parce que à la base, l'humoriste c'était le bouffon du roi, c'était le seul qui a le droit de rire
de l'autorité.
De l'autorité, sans se faire couper la tête.
Mm-hmm.
Et là, de plus en plus, on voudrait nous faire croire que si tu ris de certaines choses, on va te couper la tête.
C'est ça.
Et ce qui est terrible, c'est que on a le droit de rire de plein de choses dont on s'interdit de rire. Et, alors qu'en fait, normalement, la limite, c'est la loi. Alors que là, ça devient une espèce de morale qui se met en place, qui est une espèce de loi dans la loi qui... Je vois pas pourquoi en fait elle serait légitime.
Complètement, c'est très très pervers, c'est très sinueux, c'est un peu inquiétant, c'est-à-dire quand même La liberté d'expression, elle est quand même mise rude à l'épreuve. Elle est mise à l'épreuve dans ce... Parce qu'avant, c'était les... Justement, avant, on pouvait choquer les pudibonds, c'est-à-dire la... Sauf que maintenant, ceux qui sont choqués ne viennent pas de ce côté-là. C'est tout d'un coup, c'est... Et c'est quand même un jeu de chasser-croiser, de se dire comment résister à ça et ne pas céder.
Moi, je trouve que de plus en plus, on vit dans un film de Tati. et comme j'aime l'absurde, je me régale. Mais c'est... Si jamais on n'est pas un petit peu accro au décalage, c'est très angoissant. C'est très très angoissant. Oui.
Ouais. Est-ce que tu as déjà eu des réactions vives ou toi tu t'es dit merde, t'arrives toujours à assumer à 100% tes chroniques ou parfois quelqu'un a réussi à te faire culpabiliser ?
Alors non, je. Il y a juste eu une fois où sur France Inter j'avais fait une chronique où. En fait, j'ai essayé de contourner le sujet du génocide au Rwanda parce que la journée mondiale du génocide au Rwanda tombait en même temps que la journée mondiale de la bataille de Polochon.
C'est pas ah putain la coïncidence de
et
merde.
En fait, en essayant de faire une chronique où je détourne le sujet, j'ai dit une phrase et qui n'était pas correcte.
Ah.
Je dis ce sont des voisins qui se sont entretués.
Alors, okay.
C'est pas vrai parce que le principe d'un génocide, c'est une communauté qui
extermine une autre.
C'est comme s'il avait dit les nazis, les juifs se sont entretués.
Bien sûr, oui, alors que c'est les Tutsis qui ont été massacrés. Ouais.
Et après, donc, il y a eu des vives réactions, notamment la direction de France Inter
okay.
qui m'a demandé de m'excuser. J'ai accepté de m'excuser parce que c'est moi qui avais dit une bêtise.
Ok.
Et,
wow.
Et je trouve que là, oui, le sujet là, oui. est tellement délicat. Si ouais. tu dis une bêtise, tu dois derrière t'excuser.
Ouais.
En rappelant le fait que tu es humoriste
oui.
et que tu ne fais pas une thèse sur les choses et que des fois tu dis des choses, sauf que quand c'est maladroit sur un sujet aussi sensible,
ouais.
ça peut se comprendre. Après, si concrètement je devais culpabiliser à chaque fois que je reçois un mail.
Ah ouais, des mails. Oh, tu reçois des mails, putain.
Je reçois des mails en permanence,
oh.
surtout. C'est-à-dire que j'ai quand même fait une journée mondiale, j'avais traité la journée mondiale des mathématiques.
Ouais.
Je me suis fait insulter par des profs de maths.
Voilà.
Une semaine.
C'est ça.
J'ai fait une vanne sur la langue espéranto. Et les espérantistes occupent pendant 15 jours.
Putain.
Mais ce que je crois, c'est qu'il faut quand même prendre du recul un minimum et rire des choses. Je pense que, oui, dans le fond, je suis féministe. Je suis pour l'égalité hommes-femmes, je trouve que c'est du bon sens. Je suis pour le fait qu'on ne torture pas les gens, je suis pour le fait qu'on ne soit pas raciste, je suis pour le fait qu'il y ait des places pour les handicapés, qu'on arrête de stigmatiser les gens qui sont en surpoids. Je suis pour le fait qu'on puisse vivre ensemble et qu'on soit tous différents. Et voilà. Mais c'est un petit peu lourdingue
ouais.
de devoir tout le temps justifier de ceci et de cela.
Ouais.
Et je trouve que... Ça réduit et ça dessert les causes. C'est comme quand tu fais une blague qui n'est pas grossophobe ou qui n'est pas raciste et qui n'est pas faite méchamment. Et après, on te dit « Ouais, vous êtes ceci, vous êtes cela. Mmh. » Je crois vraiment, mec, que tu es en train de desservir ta cause.
Complètement.
La caricature.
Absolument.
Et que je pense que plus tu vas caricaturer une cause, et moins on va la prendre au sérieux. De plus en plus, comme les gens veulent se regrouper de gens qui parlent le même langage et qui font partie de la même communauté et qui... bref, et je trouve qu'en fait, on est en train de monter des espèces d'apartheid, d'autoritarisme les uns contre les autres, alors que pour que ça marche, il faut qu'on se mélange. Et c'est pas en étant le plus en colère possible les uns contre les autres, en restant entre nous, qu'on va réussir à se mélanger correctement. Mais voilà, après moi, des fois j'ai l'impression de... Enfin, j'ai pas l'impression d'appartenir au monde d'aujourd'hui. J'ai toujours eu l'impression d'être en dehors des choses et je sais pas, j'ai peut-être une vieille conne alors que j'aime pas particulièrement les vieilles connes. j'ai du mal à adhérer aux extrêmes, quoi. Et ça me fait peur parce que du coup, il y a tout, on fait attention à tous les mots et on ne met plus du tout d'humour. Et c'est une forme de fascisme, en fait.
Complètement. Ah ouais.
Que, peut-être que... Enfin, ouais, c'est... Ça pourrait être tellement chouette, la vie.
Mais cela dit, tu as dû avoir plein de messages de soutien, j'imagine, de la part de féministes ou de groupes féministes après cette chronique où tu parles des seins, j'espère, quand même.
Oui, bien sûr. Ouais. J'ai reçu des messages magnifiques. Ouais. J'ai reçu des messages dégueulasses, des messages très cons, des trucs magnifiques, mais... En fait, j'accepte parce que c'est ça l'humanité.
Elle est tellement drôle ta blague de j'ai pas été pris chez les Femmes parce que le budget peinture. C'est excellent. Ouais.
Mais non, c'est sûr que c'est. Moi, j'arrive pas à tirer des conclusions ou à dire ça devrait être comme ci, ça devrait être comme ça. Juste, je m'interroge sur le fait de qu'on se monte les uns contre les autres. Est-ce que c'est la solution pour qu'on puisse cohabiter? Je suis pas certaine, quoi. Parce qu'on peut plus réussir à cohabiter si on lâche un peu et qu'on arrête de tout prendre comme ça de manière aussi frontale et grave.
Ouais. Oula, j'espère qu'il va pas vomir sur toi. Ouais, c'est clair. Et puis parfois on dit des conneries, mais c'est tellement bien en face quand la personne te comprend. Moi, ça m'est déjà arrivé peut-être de dire des bêtises à une femme enceinte ou à une végétarienne ou de pas comprendre ou de faire des maladresses. Mais si en fait la personne elle t'excuse, qu'elle a un peu d'indulgence et qu'elle te dit bah non parce qu'en fait, sans me prendre pour une conne là, à l'endroit où je sais pas, et ben je me dis bon bah c'est chouette, c'est comme ça que les choses avec un peu de pédagogie.
En fait, moi professionnellement j'ai pas l'impression d'être dans la provocation.
Ouais.
C'est-à-dire que je crois que j'ai une manière d'observer le monde et retranscrire les choses qui est sans filtre, un petit peu comme une enfant qui
ouais.
pose une question, va dire ah, pourquoi la dame a de la moustache.
Ouais.
Mais c'est pas méchant, c'est juste une question. Je me demande pourquoi la dame a une moustache. Après voilà, pourquoi est-ce que c'est compliqué que la dame ait une moustache, pourquoi est-ce que on n'a pas le droit d'avoir une moustache quand on est une dame. Pourquoi tu vois, c'est des questions qui faut soulever. Et du coup, quelle réaction on va avoir les gens autour face à cette moustache. Mais c'est pas calculé. Et c'est jamais méchant, et c'est toujours une interrogation. Et je vis ma vie comme ça, c'est-à-dire que je vis ma vie au jour le jour, à l'instinct, et je vois ce qui me fait bien, ce qui me fait du bien, ce qui me fait pas du bien, et clairement, j'aime aller vers les choses et vers les gens qui me font du bien et qui sont chouettes. Si à chaque fois je vois quelqu'un, j'ai l'impression d'être une pauvre merde, je la vois plus cette personne parce que je suis pas maso.
C'est hyper inspirant de discuter avec toi parce que hier j'ai vu deux copines qui sont toutes les deux comédiennes et qui écrivent pas. Elles étaient quand même assez malheureuses et frustrées toutes les deux, différemment. Hein. L'une le matin parce qu'elle avait eu des réponses négatives et qu'elle se disait est-ce que j'arrête tout, et l'autre le midi parce qu'elle me parlait d'une autre actrice qu'on connaît qui réussit, qui cartonne, elle me parlait de son envie. Et même si je les aime toutes les deux, je me suis sentie après, je me suis dit ah putain mais quelle douleur existentielle. Et là quand je discute avec toi, je me dis ok, j'ai envie de tendre vers ça, vers les de ressembler aujourd'hui aux femmes qui écrivent parce que
mais
tu vois.
En fait, déjà, l'écriture, qu'est-ce que c'est? C'est de l'indépendance pure, c'est-à-dire que tu n'attends pas que quelqu'un te propose quelque chose pour exister, pour t'exprimer, et tu produis ce que tu veux dire, ce que tu veux défendre, et ça te correspond, c'est du sur-mesure. Donc l'écriture, c'est une vraie, vraie, vraie force d'indépendance. Et voilà, et si tu te plantes parce que c'est toi qui l'as écrit, qui le pensais, et que tu te remets en question de pourquoi je me suis plantée, et du coup ça te fait avancer parce que tu t'es plantée, ou pas, tu t'es pas plantée, mais en tout cas c'est un cheminement personnel, quoi. Et quant au fait d'être malheureuse parce qu'on se compare aux autres, c'est pareil, ça a été très conditionné par notre société, par l'école, par le fait que ce soit toujours celui qui a la meilleure note, le meilleur de la classe, la plus belle, le plus beau, le plus intelligent, le plus drôle, celui qui a la plus grosse bite. En fait, il faut vraiment sortir de ce truc-là parce qu'on va être infiniment malheureux. Et pourquoi est-ce que moi, j'en suis à cette place artistique alors que d'autres qui ont commencé en même temps que moi vont être plus loin? Parce qu'ils ont fait d'autres concessions que moi, j'étais pas capable de faire. Ils ont fait des rencontres à tel moment. Ils ont mis un truc personnel, un blocage qui font qu'ils se sont sabotés personnellement. En fait, tout s'explique. Il faut juste arrêter d'être frontalement collé au truc et de dire « Ah, c'est comme ça, c'est injuste ». Non, en fait, il y a une explication à tout. Tu décortiques, tu essaies de comprendre et tu essaies de résoudre le problème. Et surtout, t'essaies de faire la paix avec toi-même. C'est-à-dire que moi, si je suis toujours en train de me dire « Ah, un tel, il y a il fait du cinéma, il fait ci, il fait ça. » Oui, mais est-ce que t'aurais été capable de faire ce parcours-là? Non, parce que c'est pas toi. Et en fait, il faut vraiment arrêter de se comparer parce que déjà, on se déteste.
Ouais, ouais.
alors qu'il n'y a aucune raison de mettre de la haine à cet endroit-là. Et si quelqu'un y arrive, ça veut dire que c'est possible d'y arriver. Et c'est pas parce que toi t'as un autre parcours que tu échoues, c'est juste que ta vie elle est différente. Il y a des artistes qui vont être connus une fois qu'ils vont être morts et ça va être extraordinaire, et des artistes de leur vivant ils vont avoir une réussite incroyable et après on les oublie totalement. Il y en a d'autres, ça va être un mélange des deux. Je connais des gens qui ont énormément de talent qui seront jamais connus, je connais des gens qui n'ont pas de talent qui sont très connus. Après tout ça c'est subjectif. Enfin il faut arrêter de croire que tout ce qu'on dit c'est vrai, c'est sérieux, c'est prouvé, c'est mathématique. C'est des points de vue, c'est des parcours, et c'est intéressant. Même l'échec est intéressant. L'échec est plus intéressant que la réussite. Parce qu'en fait, si tu construis une forme de réussite derrière, elle est beaucoup plus solide si jamais t'es passé par une forme d'échec.
Ouais, et tu t'es... Et parce que c'est Ruquier qui disait, mais vous voudriez pas tourner au cinéma, etc. Quand est-ce que tu t'es vraiment libérée de ce qui, j'imagine, quand t'es arrivée il y a 16 ans de Lille à Paris, ce rêve de... d'être choisie, à quel moment, dès le départ, tu t'es dit, à partir du moment où t'es tombée amoureuse avec l'écriture et jouer tes spectacles et que t'as trouvé cette forme d'indépendance, très vite, t'as fait le deuil de ce côté, parce qu'être comédienne, il y a un petit côté, justement, un peu comme le titre de ton spectacle, un peu être une princesse, en fait, c'est pas... C'est, moi, je suis très inquiète quand je vois des adultes qui rêvent d'être acteurs. Je dis, c'est très bizarre, quoi. C'est un rêve que peut-être tu fomentes à l'enfance, comme d'être footballeur, et que parfois tu poursuis adulte, et ça se réalise ou non. Mais les adultes qui sont là, je veux être acteur, je me dis, ils sont fous, il faut qu'ils soient internés, quoi. Parce que c'est pas quelque chose que tu... c'est tellement princesse. C'est tellement princesse dans le sens, j'attends le prince charmant, actrice.
Moi j'ai pas fait le deuil. J'ai pas fait le deuil du tout parce que ça peut parfaitement arriver comme ça peut ne jamais arriver. Sauf qu'en fait, quoi qu'il se passe, je serais pas malheureuse puisque j'aurais fait mon parcours personnel. Et s'il se passe des choses en plus, c'est du plus et c'est formidable. Mais si les choses n'arrivent pas, de toute façon, moi j'aurais eu mon parcours et j'en suis assez fière. J'en suis assez fière parce que même s'il y a des trucs qui sont mieux que d'autres, au final j'essaye, je tombe, je me relève et je me trompe et je rectifie ou pas, mais en tout cas je cherche.
Et c'est du bonus en fait, le regard, d'abord t'as en un le regard sur toi qui conduit ta vie, et si jamais d'autres arrivent, ça sera que voilà, des gens qui viennent et qui partent, mais ça sera pas ta ligne quoi.
Oui c'est ça, c'est du positif, c'est du plus, et puis... En fait il faut arrêter de se rendre malheureuse avec des choses sur lesquelles on n'a pas de prise. Tu vois, c'est terrible des fois de se rendre malheureux parce que tu dis ah ben je veux absolument séduire une personne que je n'intéresse pas. En fait tu peux faire tous les efforts de la terre,
ça n'arrivera pas.
Les efforts, bon, la personne va s'intéresser à toi.
C'est
si
sûr.
Si elle va s'intéresser à toi, elle le fera parce que t'es toi-même un moment et que tu fais ton truc ou tu lâches prise. Mais si t'es toujours en train de vouloir tout contrôler, que ça se débloque, que ceci, que ça se fait pas, tu vas être très très malheureux. Puis après, ça passe super vite la vie. Et t'arrives, tu es âgé et t'es aigri. C'est hyper nul.
C'est clair. Alors je passe au petit questionnaire de Proust, je te pose quelques questions. Est-ce que tu as une qualité que tu préfères chez un homme?
L'intégrité.
La qualité que tu préfères chez une femme?
L'intégrité.
Le principal trait de ton caractère?
Ah, comment on dit ce mot pour dire qu'on lâche pas?
Déterminé?
Pugnace.
Pugnace.
Il est moche ce mot pourtant, et ce qu'il dit c'est chouette.
Ouais.
On dirait vraiment un truc infecté.
Ah, c'est vrai, c'est drôle.
On est plus sur le cul.
Et pourtant le sens est bien. Qu'est-ce que tu apprécies le plus chez tes amis?
La bienveillance. Tu vois, des fois, quelqu'un a vraiment du sale gueule ou un problème ou un truc. Ou... Puis, c'est toujours chouette de dire, ne t'inquiète pas, tu trouves un truc d'humour, un truc positif parce que tu veux requinquer la personne. Tu sais très bien qu'il y a des hauts et des bas et que les potes sont là pour te montrer que ça va partir, quoi.
Ouais. Ton principal défaut?
Je suis têtue. Ouais.
C'est un beau défaut. Hein. Ton occupation préférée?
Écrire. observer aussi. Là, c'est compliqué, c'est très lié. Hein. Tu peux écrire que si tu observes, que si tu écoutes, ça c'est trois choses. Hein. Mm-hmm.
Ouais. Ton rêve de bonheur, ton idée du bonheur.
La liberté. Oui, c'est ce que tu veux de plus.
Bah oui.
Tu pourras pas dire, ah, pas eu ceci, pas eu ça, t'es libre. Tu pouvais faire des choses. Mm.
Et quel serait ton plus grand malheur ?
L'entrave. Ah, c'est cohérent. Hein.
Ouais.
Oui.
Qu'on t'empêche, ouais, qu'on t'enlève ta liberté.
Oui, clairement. Tu vois, je pense que dans ce métier, on croise des gens qui ont différents moteurs. Il y a des gens qui ont besoin vraiment de reconnaissance, d'autres d'argent, de trucs. Moi, j'ai toujours voulu être libre. Mmh. J'ai toujours fait ce métier parce que j'aimais la liberté. Il n'y a rien de plus précieux. C'est hyper cucu ce que je dis.
Non, bien sûr. Après, j'avoue que moi, un petit peu de reconnaissance, c'est quand même agréable aussi, parce que sinon, tu ne peux pas rencontrer le public, rencontrer les gens. Tu as besoin de savoir qu'il y a un écho et leur reconnaissance fait du bien. Mais
tu peux être libre et avoir de la reconnaissance.
Ah ben, complètement. Et c'est, oui, c'est sûr que la liberté, c'est... Je m'identifie à ce que tu dis. Je trouve ça très fort, c'est sûr. Et l'argent, on s'en fout. Hein.
L'argent, on s'en fout, oui et non.
C'est agréable, c'est trop bien d'en avoir un petit peu. Tu vois, moi, j'aimerais bien m'acheter un canapé.
Ouais. Je trouve que l'argent, dès l'instant où tu as un peu sur la tête, tu as à manger, et tu peux partir en vacances de temps en temps, ouais. Il n'y a pas besoin de plus.
Non, il n'y a pas besoin de plus. Ouais.
Très bien.
Ouais, ouais, c'est clair. En plus, en France, il y a plein d'endroits où tu peux voyager qui sont hyper accessibles. C'est ça qui est agréable aussi. En Bretagne, tu as plein de sentiers côtiers, de choses où la beauté est accessible. C'est ça aussi qui est génial dans ce pays. Alors qu'il y a des endroits où le beau est cloisonné, en fait, c'est fermé. Tu as un peu ça dans le sud de la France, vers le Cap Bénat, tout ça, où c'est des domaines magnifiques, mais en fait, c'est des propriétés privées. Donc, il faut accéder à la propriété. En fait, le littoral est un peu fermé, le sentier n'est pas entretenu. Là, c'est moins sympathique. Ce que tu détestes par-dessus tout.
Les gens qui mettent trop de parfum.
Ah
passible de la peine de mort.
C'est clair.
C'est pas possible. On te viole les narines. C'est beaucoup trop présent. Te calme.
C'est clair. Ton état d'esprit actuel?
Non, ça va. Non, ça va.
Optimiste?
Non, alors je suis jamais optimiste, jamais pessimiste. Je suis en observation.
Et enfin, est-ce que tu as une devise favorite?
Il vaut mieux manger des spaghettis avec des amis plutôt que du caviar avec des connards.
Merci Constance.
Ouais, merci beaucoup.
C'est vrai que moi, si j'ai juste un petit peu de sous là, tu vois, pour m'acheter un canapé ou faire mon bar, en vrai, je serais la plus heureuse des femmes. Ouais, tu n'as pas besoin de.
Pas trop, parce qu'en plus, au bout d'un moment, quand t'as trop, tu viens fait, puis tu t'inventes des problèmes. Ouais. Et puis, en fait, tu deviens prisonnier de ce truc-là, quoi.
Ouais.
Mais c'est comme, faut pas être... Moi, je suis pas totalement détachée du matériel,
ouais.
Mais j'aime quand même avoir une maison chouette, j'aime bien quand il y a des objets ou des couleurs de tissu qui me réconfortent, qui me plaisent, quand c'est mon nid, en fait.
Mais tu vois, c'est encore un autre truc qui est bien avec ce pays, la France, c'est quand il y avait eu un sondage, je sais plus, c'était à l'époque de Sarkozy, quand il disait « travailler plus pour gagner plus », on avait demandé aux Français quelle était leur priorité. Et en fait, c'était pas plus d'argent, c'était plus de temps pour partir en vacances, pour passer du bon temps. Et ça, j'ai trouvé ça, mais je me disais, putain, je suis tellement fière d'être française, en fait, que mon pays, la majorité des gens, leur désir ne soit pas de s'enrichir à tout prix, en vrai, pourquoi, mais juste d'avoir le temps, en fait, d'être en week-end.
Avoir tous les millions de la Terre, si t'as pas le temps.
Bah ouais.
De gens avec qui partager.
C'est clair.
C'est une belle gens.
Bah ouais, c'est ça. C'est ça.
C'est ce que j'aimais aussi, c'est ça. Ça sert à rien d'être le plus riche du cimetière, quoi.
Ouais, c'est clair.
Moi, par exemple, j'ai pas d'économie. Je sais pas économiser parce qu'en fait, quand j'ai des sous, ça me fait plaisir de me faire plaisir et puis de faire plaisir aux autres et puis de partager et qu'en fait ce soit léger et que truc. Et puis quand il y a moins de sous, on mange un peu plus des sardines, des trucs comme ça. Mais En fait, dès l'instant où je sais que, bah, comme ça, paf, on peut mourir,
ouais.
C'est un peu con de vouloir faire des espèces de tapis, de trucs au cas où, de pas profiter, de... Puis j'ai pas d'enfant, donc si tu veux, je suis pas en train de me dire absolument que je leur laisse une sécurité, un truc... Non, en fait, je suis au jour le jour et puis j'ai envie de partager, de profiter et que ce soit chouette, ouais.
Trop bien, merci. J'espère que cet épisode avec Constance vous a plu. Malgré les bugs de son, moi ça m'a fait bizarre en fait de le réécouter aujourd'hui, car hier, j'ai présenté un open mic dans un comedy club, et dans ma présentation en fait, j'ai dit, c'était la première fois que je le faisais, j'ai dit, vous verrez, vous allez voir des humoristes débutants, pas produits, pas lissés, qui feront des blagues de cul, des blagues sur les juifs, qui pourront plus faire après, alors profitez-en. Et en fait... Mon Dieu, c'était un cru d'humoriste débutant catastrophique. Je ne pouvais pas le savoir, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu ça en fait. Un florilège de nullos en fait, de blagues misogynes, homophobes. J'ai que des gars sur ce plateau, enfin une meuf je crois, une ou deux. Non, une, mais qui était bien, mais par contre c'était terrible. Il y avait un des gars, tout son set en fait, chaque phrase se finissait par « pute sale pute, espèce de pute sale pute, les putes ». Ah, ok. Un autre mignon pourtant, en fait, hein, comme ça, qui joue sur le fait qu'il a l'air d'avoir 11 ans. Et puis ensuite, il se met à raconter qu'il est dans la friend zone avec une meuf et là, il lâche un sale pute. Et en fait, tout son set, c'est non, mais je vais pas l'insulter, mais elle m'a mis un râteau parce que j'étais pas mature et qu'elle partait en vacances, donc quand même, j'ai envie de l'insulter. Là, c'était de pute. Et t'es là, mais. Oh, bon, ok. Et un autre mec qui faisait des blagues sur le fait qu'il frotte les meufs en boîte, mais pas en autodérision, en remise en question. Enfin, premier degré, très chelou. Puis en fait, il danse, une danse, et puis une danse efféminée, et ensuite il dit ouais, je deviens l'ami PD. Et ça, c'était tellement homophobe, et il y en a un autre, et à chaque fois pourtant j'avais envie de rire, de les soutenir, enfin quand même je présentais, donc j'étais là genre ah, je partais d'un truc, d'un espoir, et en fait pourtant c'était à chaque fois, et un autre mec qui fait des blagues sur le fait qu'il est livreur Deliveroo, ok c'est intéressant, puis ensuite qu'il livre des amandes à une meuf, et là il dit ouais mais la meuf elle faisait un anulingus à un gars, et là pendant 10 minutes, en fait il traite la meuf de sale grosse dégueulasse, et il la chème sur sa sexualité, et c'était un enfer. Un autre mec encore qui faisait une blague, qui commence bien à chaque fois, ça commence bien, moi je suis partante, une blague sur le complexe d'Oedipe, ok cool, et puis il finit par des blagues sexistes sur la ménopause, toujours, voilà, se foutre de la gueule des meufs, mais violemment, enfin c'était... Et je suis remontée sur scène à la fin et j'avais honte, je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là. Alors j'ai félicité le public, j'ai dit ah, bravo, vous étiez encourageant, rieur, vous avez beaucoup ri, jusqu'à l'énième sale pute en fait, vous avez arrêté de rire et vous aviez raison. Et à la sortie, je suis allée voir les deux gars qui arrêtaient pas avec leur sale pute pour leur dire que j'avais été hyper mal à l'aise pendant leur passage. Et il y en a un qui m'a dit « Ouais, mais t'as pas compris ce que je disais ?» Ok, bon, bah lui, j'ai pas insisté. Et puis je l'ai revu, d'ailleurs, sur un autre plateau, traiter les meufs de moches dans le public. T'es là, mais super, génial, super, vive la nouvelle génération. Enfin, monde horrible. Et l'autre, le petit jeune, lui, il m'a écouté, il était hyper ouvert, sincèrement, il m'a dit « Ah non, mais je dis pas sale pute, je dis sale pu. » Je lui ai dit « Bah ouais, non, mais c'est... Enfin, on entend sale pute, quoi. » Et l'intention est claire. Il m'a dit « Ouais, mais c'était de l'impro, je l'ai pas écrit. » Et par contre, on a parlé, il était hyper, hyper attentif et preneur. Donc voilà, il y a quand même de l'espoir et je pense qu'on peut rire de tout. Mais enfin, là, c'était pas des blagues, en fait, c'était juste des insultes, quoi. Enfin, pas de nouveaux commentaires sur Apple Podcast cette semaine, Sniff. Alors parfois, je croise des gens qui me disent « Ah ouais, je suis fan de ton podcast, je sais, faut que je te laisse un commentaire, je me le suis noté. » Souvent, en plus, c'est des gens qui me font des audios sur WhatsApp pour me parler d'autre chose. 10 minutes d'audio, ça, ils ont le temps. Et puis à la fin de leur audio, où ils disent qu'ils sont fans du podcast, « Je sais, faut que je te laisse un commentaire. » Bah, fais-moi des audios de 30 secondes au lieu d'audio de 10 minutes et laisse-moi un commentaire sur Apple Podcast. Non mais je ne m'énerve pas, je rappelle que le podcast est gratuit, vous pouvez écouter gratuitement sur Spotify ou Apple Podcast ou autre, pas besoin de vous abonner, si vous vous abonnez par exemple à Spotify ou autre appli, pour pas avoir de la pub, bah vous payez Spotify, mais c'est pas moi que vous payez, c'est pas mon travail, moi je gagne un tout petit peu de sous sur les spots publicitaires que vous entendez parfois, mais c'est rien, genre je touche 0,0001 centime pour un épisode téléchargé aux trois quarts, voilà, la monétisation du podcast c'est pas encore ça. Et j'ai des frais, en fait. En plus, je paie pour être sur ces plateformes d'écoute, quoi. En plus de tous mes autres frais de matos. Alors, j'ai eu quelques sponsors pour les épisodes précédents. Mais je suis tellement exigeante par rapport aux marques que je sélectionne, françaises, équitables, bio, etc., que je n'ai pas eu le temps récemment de booker de nouveaux partenariats. Et voilà, bien sûr, si vous souhaitez soutenir mon travail et m'encourager à continuer, vous pouvez venir voir mon spectacle. Mais je sais bien que c'est à Paris, et la plupart d'entre vous, vous êtes à travers le monde. Et je ne ferai finalement pas de tournée de sitôt. Voilà, mon agenda de la rentrée est en train de s'organiser différemment, je vous raconterai. Mais je compte donc sur vous, surtout précommander mon livre à la rentrée, justement, dès que ça sera possible. J'ai hâte d'avoir une couverture pour mon livre. Je suis curieuse de la couverture que j'aurai pour mon livre, j'ai hâte. Et de pouvoir partager ça avec vous sur Insta. Et en attendant, on m'a parlé d'Acast Plus, c'est la monétisation de podcasts. Enfin, c'est un équivalent de Patreon qui permettrait aux auditeurs de rémunérer directement les podcasteurs tous les mois, genre 3 ou 5... ou 8 euros par mois pour du contenu sans pub ou des versions uncut, voilà, d'épisodes entiers. Je finirai peut-être par mettre ça en place aussi, je ne sais pas. Enfin, tout ça pour vous dire, vous répétez, vous implorez un petit mot sur Apple Podcast, quoi. C'est important, moi, ça me donne de la crédibilité, je vous assure. Démerdez-vous, voilà, trouvez le temps. Et même si vous n'écoutez pas sur Apple Podcast, en fait, si vous avez un iPhone, je crois que dans tous les cas, vous pouvez télécharger l'appli, trouver l'endroit où mettre un avis, mettre un petit commentaire. Vraiment, 5 étoiles, top, c'est super, continue, t'arrêtes pas. Merci, et puis c'est tout, quoi. Il y a 25 000 téléchargements du podcast tous les mois. Téléchargements. C'est-à-dire que donc ça veut dire que je ne sais pas à quoi ça correspond en termes d'écoute et d'auditeurs uniques, mais c'est plus que j'ai 295 commentaires sur Apple Podcast. Il y a plus d'auditeurs que ça. Donc je compte sur vous. Et évidemment, parfois, j'oublie aussi de le dire, tellement ça me paraît évident, mais suivez-moi sur Insta. Si vous êtes trop pudique et n'aimez pas faire de story, je comprends, pas de souci, mais au moins abonnez-vous à mon compte, on sera bientôt 10 000 et je pourrai faire des swipe up et je ferai plein de recos, j'ai trop hâte, je suis trop heureuse. Je recommanderai des spectacles de stand-up sur Netflix, OCS, YouTube. D'ailleurs, trop mignon, il y a deux humoristes dont j'étais fan et je viens d'apprendre dans le dernier épisode du podcast de Bobby Lee, Tiger Belly, qu'ils sortent ensemble, Sam Morril et Taylor Tomlinson. Deux humoristes de génie que j'adore sortent ensemble depuis bientôt un an. Et apparemment, ils sont amoureux. Et ça me fait un peu fantasmer, en fait. J'ai l'impression qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de couples d'humoristes. Le mec de Sarah Silverman, Rory Albanese, est humoriste. Elle est sortie avec pas mal d'humoristes, dont Dave Attell et d'autres. Amy Schumer, elle est sortie aussi avec des humoristes. Anthony Jeselnik, Natasha Leggero, elle est en couple avec Moshe Kasher. Et il y en a plein d'exemples. Alors qu'en France, quasi pas de couple d'humoristes. Pourquoi ? C'est bizarre. Si, il y en a un auquel je pense. Mais c'est peu quand même. Et je vais vous dire, moi personnellement, je trouve ça bizarre que moi, je ne sois jamais sortie avec un humoriste. Sortie, avoir une relation. Parce que ça dit quoi ? Des humoristes français, en fait, qui sont trop machos pour sortir avec une meuf marrante, décomplexée, qui parle de cul. Non, c'est vrai. En fait, comme si les humoristes américains, eh ben, ils acceptaient ça chez les meufs, cette liberté de ton. D'ailleurs, Blanche Gardin sort avec Louis C.K., un humoriste américain, mais les humoristes français. Il y a Thomas, je ne sais pas si je suis censée le dire. Il y a un humoriste qui sort avec une actrice, qui, elle, a un seul en scène. Mais sinon, franchement, la plupart des mecs que j'ai eus dans mon podcast, leurs meufs, elles ont mais strictement aucun rapport avec le biz. Elles sont pas, elles ont, c'est pas des artistes, c'est pas des meufs qui montent sur scène. Et là, en fait, tous les invités, là, tous les mecs que je veux ken, ils sont charmeurs, drôles et attendrissants pendant une heure de discussion, mais ensuite, c'est fini. Et peut-être parfois, que eux aussi veulent me ken. Mais il n'y en a aucun qui veut sortir avec moi. J'ai peut-être déjà été un peu draguée par des humoristes, débutants, des open micers, je pense à un, oui, non, deux, voilà. Enfin, vous vous rendez compte, en fait, c'est mon milieu, le milieu où j'évolue, où je joue tous les soirs, je partage des plateaux, je bois des verres après, et il n'y en a pas un pour me proposer un vrai date. Peut-être si, allez, un, mais c'est deux, c'est, en fait, c'est rien quand même. Et je pense que c'est parce que je parle de sexe sur scène et dans mon podcast, et que la plupart des humoristes français, ça les dérange, c'est pas leur cam. Voilà. Et ce qu'ils recherchent, c'est, en tout cas, c'est pas ce qu'ils recherchent. Même s'ils respectent mon travail, ils ne jugent pas mon travail, ils s'amusent avec moi pendant une heure, ils peuvent pendant une heure prendre du plaisir à discuter avec moi, mais c'est clairement pas ce que je suis, c'est clairement pas ce qu'ils recherchent chez une petite copine. Et ouais, il y a un décalage avec les États-Unis, quoi. Franchement. Et ça me rend un peu triste, quoi. Que... Ouais, parce qu'en fait, ce podcast a été le prétexte au départ pour des rencontres. Tu vois, c'était une blague. Les mecs que je veux ken au départ, c'était une idée de blague. Ah, je vais inviter des mecs que j'ai envie de ken dans mon podcast. Ça serait un prétexte pour les rencontrer, puis les ken. Bon, c'était ça, l'idée de départ. Et en fait, aujourd'hui, cette idée de départ fait fuir les hommes. Elle les fait fuir. Les mecs de mon milieu, ça les fait fuir, ce que je suis, ce que je dis. Sur scène, dans mon podcast, sur Instagram, ma présence, mon contenu. Ça me fait ou passer pour certains pour une salope ou pour une féministe radicale, j'en sais rien. Pour une meuf bien trop... pas une petite copine, quoi. Je corresponds pas, je fais flipper. Je fais flipper. Et allez, j'arrête là, je révèle pas plus. C'est mon humeur, j'arrête là. Mais voilà, allez, j'en dis pas plus. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous aime. Merci d'écouter le podcast. À très vite.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à le dire en faisant une petite story, en taguant mon compte et celui du podcast @lesmecsquejeveuxken sur Insta. Vous pouvez également soutenir mon travail en venant voir mon spectacle, en lisant mon livre et en commentant sur YouTube les replays vidéo de mes chroniques sur France Inter. Je suis tous les mardis dans Zoom Zoom Zen. Merci, bisous.